RCF.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes en compagnie des neveux de René Chemin de Pensée. Vous êtes avec Anne Bonneau, Nicolas Lemoine, Sylvain Contasso-Vivier et moi-même, Nazim Fattès. Donc, nous abordons la deuxième émission qui est consacrée à une œuvre d'Albert Camus qui est La Chute. Œuvre qui a été écrite en 1956.
Avant la réception du prix Nobel.
Un an avant la réception du prix Nobel, bon. Le prix Nobel a été donné à Albert Camus pour toute son œuvre, hein, pas seulement pour La Chute.
Son œuvre publiée avant 1957.
Peut-être qu'on comptait aussi sur celle qui allait publier après. Alors, on va te donner la parole, Nicolas, pour que tu nous fasses le résumé de l'épisode précédent.
Alors, après Pascal, nous avons abordé le roman donc La Chute d'Albert Camus, œuvre d'art avec un fort contenu philosophique. Nous avons planté le décor, Amsterdam, son relief plat, ses brumes qui mélangent terre, ciel et mer, ses canaux. Un homme aborde un touriste et arrive à le subjuguer, à tel point que le touriste reviendra 4 jours de suite l'écouter. Alors, nous avons parlé de la poésie d'Albert Camus, de ce qui semble être un long monologue, au risque de lasser certains lecteurs, et de ce que ça peut représenter de la solitude de l'homme moderne, puisqu'après tout, ce monologue, c'est aussi un dialogue sans cesse avorté, puisque son interlocuteur répond, même si on entend ses réponses à travers le narrateur, mais souvent l'interlocuteur refuse de répondre à ses questions, et quelque part, ce monologue est en fait un dialogue avec le lecteur, et Camus prend soin de ne pas répondre à notre place, quelque part. Et nous avons aussi parlé du langage de l'avocat, de la langue de l'avocat, trompeuse, du rapport à la vérité avec cette question, quelle vérité pour un homme sans Dieu? Que signifie même encore ce mot?
Et une chose dont on n'a pas fait le commentaire, c'est Amsterdam, il fait un parallèle, Camus, avec l'enfer de Dante.
Oui.
Vous voulez dire 2 mots à ce propos? J'avais oublié. Parce que c'est pour moi, ça a toujours été une grosse surprise que Camus plante son décor à Amsterdam. Lui, l'homme du Midi, l'homme de la Méditerranée, l'homme de l'Algérie, l'homme de Tipaza, l'homme de l'Ourmarin. Qu'est-ce qu'il va faire à Amsterdam? Bon, il a vraiment voyagé à Amsterdam. Voilà.
Bien donc, il compare effectivement les canaux concentriques d'Amsterdam, parce que si on regarde un plan d'Amsterdam, effectivement, les canaux forment des cercles concentriques. Et donc, Camus, enfin plutôt le narrateur, Jean-Baptiste Clémence, fait le parallèle avec l'enfer de Dante. Donc, l'enfer de Dante, c'est le premier volet d'un triptyque, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et donc, il présente son enfer comme étant fait de cercles concentriques. Et plus on se rapproche du centre, plus on rencontre des gens qui ont commis des péchés graves et qui sont en proie à des punitions perpétuelles qui sont d'autant plus graves. Et donc le centre, c'est le pire. Donc il y a des points de suspension puisque l'interlocuteur du narrateur répond. Le narrateur relève que son interlocuteur connaît l'enfer de Dante et sait quel est le dernier cercle. Mm. Alors, on va le dire peut-être aux éditeurs. Mm. Donc, le dernier cercle, c'est le cercle des traîtres.
Oui.
Puisqu'au centre de l'enfer de Dante, on trouve 3 traîtres célèbres. Donc, un pas si célèbre que ça parce que j'ai oublié. Mm. Brutus. Mm. Et puis Judas, donc celui qui a trahi Jésus, qui est à moitié avalé dans la gueule du diable. Mmh. Et qui donc est mâché pour l'éternité par le diable.
Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut dire que la figure du traître, c'est la figure qui colle le mieux à Jean-Baptiste Clémence?
C'est celle qu'il se donne lui-même. Il en parle plusieurs fois, encore une fois, le premier chapitre, puisque cette allusion à Amsterdam comme étant une sorte d'image de l'enfer de Dante, c'est quelque chose qui est présenté dans le premier chapitre. Mmh. Premier chapitre qui annonce ses thèmes ultérieurs. Mmh. Et donc, le thème de la traîtrise, oui, il est relevé, il apparaît plusieurs fois ensuite. Et donc, il se présente lui-même comme traître à un certain nombre de choses.
Oui. Alors, peut-être on va donner la parole à Sylvain pour voir comment Jean-Baptiste Clémence se présente lui-même.
J'étais d'une naissance honnête, mais obscure. Mon père était officier. Et pourtant, certains matins, je l'avoue humblement, je me sentais fils de roi, ou buisson ardent. Il s'agissait, notez-le bien, d'autre chose que la certitude où je vivais d'être plus intelligent que tout le monde. Cette certitude, d'ailleurs, est sans conséquence du fait que tant d'imbéciles la partagent. Non, à force d'être comblé, je me sentais, j'hésite à l'avouer, désigné. Désigné personnellement, entre tous, pour cette longue et constante réussite. C'était là, en somme, un effet de ma modestie.
Oui, alors ça renvoie à l'ironie, évidemment. Mais il dit ensuite, je refusais d'attribuer cette réussite à mes seuls mérites, oui. Et je ne pouvais croire que la réunion en une personne unique, de qualités si différentes et si extrêmes, fut le résultat du seul hasard. Alors je vais reposer la question que j'avais posée lors de l'épisode précédent. Que signifie effectivement un homme qui ne reconnaît plus l'existence de quelque chose qui le dépasse, quelque chose qu'on pourrait appeler la présence divine? Et ça veut dire que je dois m'en remettre au hasard pour expliquer ce que je fais là, pour reprendre le thème pascalien, si je suis moi coincé entre ces deux infinis, qu'est-ce que je fais ici? À quoi puis-je m'en remettre et qu'est-ce qui peut orienter ma vie?
Et bien visiblement, ce qu'il dit, tout en notant la contradiction, puisque il faut bien comprendre que ce qu'on entend, c'est un récit au passé simple. C'est-à-dire que Jean-Baptiste Clamence livre un récit de sa vie passée en se l'étant réapproprié. Hein, c'est pas un récit au présent qu'on entend, c'est un récit au passé simple, et donc distancié. Il y a une distanciation entre la vie passée de Jean-Baptiste Clémence et le moment où il parle à son interlocuteur. Et donc, il assume sa contradiction, il s'estime choisi par un destin, tout en disant qu'il est athée, qu'il n'est d'aucune religion.
Anne, tu voulais réagir ?
Oui, qu'est-ce qui peut orienter ta vie ? C'est justement les autres, c'est mettre ta vie au service des autres. Par exemple, Camus, justement, dans son discours, quand il a reçu le prix Nobel, il a fait un magnifique discours, j'invite tout le monde à le lire, car c'est une véritable perle. Il a dit que le rôle de l'écrivain, c'était ça, c'était de donner la parole à ceux qui ne l'avaient plus, soit parce qu'ils étaient prisonniers, soit parce qu'ils étaient trop humbles. Et donc, c'est ça le rôle, il est encore beaucoup plus beau, c'est quand on ne croit pas à Dieu, parce qu'il n'est pas obligé.
D'accord, mais si on se retrouve dans la position de Jean-Baptiste Clamence, qu'est-ce qui peut m'en déloger de cette position ? Parce que tu me dis, il y a des âmes généreuses qui n'ont pas besoin de Dieu pour être généreuses, telles Camus. D'accord, mais supposons que tu n'aies pas été touché par cette forme de grâce, pour reprendre le vocabulaire religieux, ce qui est un peu paradoxal, tu vas me récuser, d'accord. Mais supposons que tu te sois dans la position de Clémence, dans cette position de vouloir dominer. Peut-être parce que tu as reçu une claque à un moment donné, que tu as envie de prendre une revanche sur la vie. Qu'est-ce qui peut te déloger de cette chose-là et t'empêcher de commettre, comme le narrateur de ce récit, d'être dans la vanité, dans la il exploite tout le monde, quelque part.
Oui, mais...
Ce Clamence, il pousse même le front jusqu'à aller aux enterrements, là où il voit de la mort, et pour se distraire, et puis pour bien se faire voir. Et on voit qu'il a toujours le souci de bien se faire voir, et des victimes, et des mendiants, et de tout cela. Et voilà, voilà la question que je te... renvoie, Anne.
J'ai deux réponses. Tu pourrais dire, peut-être, comme dit Clémence vers la fin du livre, c'est peut-être pour ça qu'il faut un dieu, c'est peut-être pour ça qu'il faut un maître, c'est peut-être pour ça qu'il faut de la servitude. Oui, je ne suis pas absolument sûre de ça, mais peut-être aussi la réponse, c'est le jugement de soi-même. C'est le jugement qui a rattrapé Clémence et qui l'a tout d'un coup, qui lui a fait se poser des questions sur lui-même. Mais un jugement assez subtil quand même. Ce n'est pas forcément le jugement qu'on pourrait croire.
D'accord. Ce jugement, est-ce que c'est pas la position socratique de se toujours s'interroger soi-même, de faire cet effort-là ? Mais précisément, pour en revenir au thème du divertissement, est-ce qu'il n'y a pas le risque de toujours fuir ce jugement-là ?
Alors, avant d'aller là, justement, c'est il a besoin de se sentir justifié par un destin parce qu'il a à se justifier d'être ce qu'il est et d'occuper la position qu'il occupe. Et donc, effectivement, la question, qui est la question, à mon avis, centrale du roman, c'est la question de la justification. Pour reprendre l'image que donne Sartre dans Les mots, Sartre donne l'image, pour décrire la condition humaine, de quelqu'un qui est dans un train, donc c'est le train de la vie, et qui est sans billet. Il est face au contrôleur, Et le contrôleur, bon, c'est pas qu'il soit très agressif, mais il faut que l'individu qui est dans le train sans billet puisse justifier sa présence dans le train.
Ah, ça, j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que ça me rappelle aussi le « vous êtes embarqué ».
Et nous sommes embarqués, exactement. Voilà.
Et là, on voit aussi, ce qui est drôle aussi, c'est qu'on sent que ce qu'il y a derrière, c'est la question de l'existence humaine. Et il y a une controverse aussi derrière la chute de Camus, c'est le rapport de Camus à Sartre et aux autres dits existentialistes, notamment Merleau-Ponty. On va peut-être pas rentrer dans ces détails ici, Anne.
Non, je veux dire, est-ce que le problème c'est la question de Camus par rapport à Sartre ou est-ce plutôt la question de Sartre par rapport à Camus? Je crois que Sartre a été assez violent vis-à-vis de Camus et que j'ai pas l'impression que
l'inverse
était vrai.
Il y a plein de petites piques, en tout cas dans ce roman, qui
sont des allusions.
Alors, juste pour revenir au thème pascalien, moi je voulais dire une petite chose, c'est que Pascal ne m'a pas été naturellement proche de Camus. Et là, c'est un peu un travail qu'on fait. Et je vous propose d'écouter une interview qui s'est passée lors d'un colloque qui était consacré à Albert Camus, qui s'est tenu à Angers en 2016. Et là, c'est Guy Basset qui nous parle de la proximité qu'il y a entre Albert Camus et Pascal.
Mais les auditeurs qui en avaient marre de Pascal vont en être pour leur frère.
Voilà.
Parce qu'avec Camus, on ne quitte pas Pascal.
On ne quitte pas Pascal et avec les neveux de René, on ne quitte jamais Descartes non plus. On n'est jamais bien loin de Descartes. J'ai demandé d'abord à Guy Basset comment interpréter la phrase qu'on trouve dans les carnets de Camus, Pascal le plus grand. Le rapprochement Camus et Pascal est un rapprochement auquel on ne s'attend pas, puisque d'un côté, Pascal a le regard et le cœur tourné vers Dieu, et Camus réfléchit à la possibilité d'un homme sans Dieu. Comment donc interpréter cette phrase ?
Alors, elle n'est pas si énigmatique que ça, cette phrase, dans la mesure où Pascal a marqué toute la postérité philosophique après lui. Quelqu'un qui a beaucoup compté pour Camus, comme Nietzsche, avait aussi une profonde admiration pour Pascal. Camus a été formé à Pascal par son professeur de Cagnes et il a toujours dit sa dette envers Pascal, dans laquelle il affirmait que non seulement Pascal comptait pour lui, mais que Pascal était vraiment un homme libre dans tous les sens du terme. Et un des premiers articles qui est paru dans les études en 1945 titrait Camus, un Pascal sans Dieu. Donc il n'y a pas effectivement Dieu, mais on retrouve la notion de finitude, la notion de divertissement, pour aller vite, au cœur de la réflexion que Camus mène sur le monde et sur la finitude de l'homme et la responsabilité de l'homme envers les autres.
Je vois deux choses, évidemment, donc vous avez éclairé le point qui concerne Dieu. Il y a un autre point qu'on pourrait éclairer sur les rapports entre Pascal et Camus, peut-être celui du rationalisme ou celui des mathématiques, puisqu'on sait que Pascal est un des plus grands mathématiciens de son temps. Camus, à ma connaissance, n'a pas d'intérêt prononcé pour les sciences, de goût pour les sciences. Est-ce que ça pourrait pas plutôt séparer ces deux hommes que les rapprocher, ou comment Camus voit le rationalisme? Est-ce qu'il tente de le dépasser à sa façon? Est-ce qu'il pense que le rationalisme a montré ses limites à travers la civilisation des machines? Qu'est-ce que dit Camus de tout ça?
C'est la dernière expression ou les dernières expressions que vous avez prononcées qui vont dans le sens. C'est-à-dire que Camus n'est pas un homme de système. Camus n'est pas, se méfie de la raison de façon générale. Il y a beaucoup d'émotions dans les textes de Camus, non seulement les premiers, mais La pensée de midi est aussi, qui est la dernière partie de L'homme révolté, et la partie novatrice de Camus par rapport à des réflexions sur le monde contemporain. Ce n'est pas une pensée de type rationnel, c'est une pensée plus orientée vers la nature, vers le soleil, qu'un système philosophique. C'est d'ailleurs pour ça que Camus a mis longtemps à être reconnu comme dans le monde philosophique, notamment universitaire.
D'accord. Et par rapport à cette question de Camus philosophe, Camus pas philosophe, est-ce que vous souhaitez dire deux mots? Parce que c'est une question qui souvent crée des débats. Vous et moi connaissons avant un ami commun qui s'appelle François Vezin, qui est toujours nous prie de faire cette séparation entre Camus et le philosophe qui a inspiré Camus, qui est Nietzsche. Et donc, il cite souvent cette phrase de Camus qui dit « Je ne suis pas philosophe et n'ai jamais prétendu l'être ». Quel est votre sentiment propre par rapport à cette différence entre un écrivain, un artiste, un philosophe? Est-ce qu'on peut trancher si facilement la frontière? Est-ce qu'il est salutaire de la trancher? Ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux être sur ses gardes et dire « Bon, il y a une partie de philosophe chez Camus et il y a une partie d'artiste chez lui aussi ».
Alors, je crois que c'est un débat qui est un débat sans fin sur cette question Camus philosophe, Camus non philosophe. La première remarque que l'on peut faire, c'est que Camus a toujours considéré, s'est toujours considéré en dehors du monde philosophique. Et il n'a pas trouvé non plus sa place à l'intérieur du monde philosophique universitaire. Donc, si on adopte une définition très large et très lâche de la philosophie, je comprends que quelqu'un parle de la philosophie de Camus comme on parlerait de la philosophie de bistrot ou de la philosophie du djinn. Ça n'a pas beaucoup d'autre sens. Par contre, c'est vrai que Camus a fait des études de philosophie et qu'il a fait un diplôme qui a été bien remarqué par ses enseignants. Et René Poirier, qui était son maître en philosophie, ou du moins le professeur à Alger, affirmait toujours que Camus était un artiste plutôt qu'un philosophe.
Voilà, donc on a entendu des choses très riches dans cette interview. On y reviendra peut-être lors des autres émissions parce qu'on n'aura pas le temps de tout commenter de ce que nous a dit Guy Basset. Mais en tout cas, je crois que ce qui est important, c'est de bien voir ce que signifie le personnage de Pascal chez Camus. Alors pourquoi Camus dit Pascal le plus grand? Vraiment, c'est quelque chose auquel on ne se serait pas attendu pour Pascal.
Alors, de la part de Camus.
De la part de Camus, pardon. De la part de Camus. Est-ce que vous voulez faire quelques commentaires sur ce qui a été dit? Déjà, est-ce que vous considérez Camus comme un philosophe? Moi, je pense qu'il est sain de se garder cette frontière entre un artiste et un philosophe. Voilà. Je pense que La Chute n'est pas une œuvre philosophique, bien qu'elle regorge de thèmes philosophiques.
Oui, et qu'elle pose des questions philosophiques.
Oui, mais dans L'Homme révolté, c'est quand même assez proche d'une œuvre philosophique, quand même.
Alors, L'œuvre révoltée est résolument un essai philosophique. Voilà. Donc, mais ça n'a... Alors, L'œuvre révoltée, il faudra qu'on
L'Homme
en
révolté.
Parle. L'Homme révolté, il faudra qu'on en discute pendant une des prochaines émissions, et notamment avec la question du terrorisme. Et on pourra revenir à ce que dit Daniel Moise dans sa chronique, ce qui a été diffusé il y a deux semaines dans Les Neveux de René.
Moi, oui. Je ne sais pas si c'est si important que ça de vouloir absolument faire une distinction. Il y a des auteurs qui nous apportent énormément et qui nous font énormément réfléchir. Donc c'est le cas de Camus, c'est le cas de Dostoïevski. Moi, personnellement, je préfère lire Dostoïevski que beaucoup de philosophes. Donc je ne sais pas si c'est tellement important que ça de faire une limite.
Oui, mais tu vois, Anne, oui. Cette question, par exemple, de la position de l'homme sans Dieu, on n'arrive pas à la trancher. Souvent, je demande qu'est-ce qui peut nous rendre meilleurs. Et finalement, on répond par des questions qui, à mon avis, ne sont assez floues. Par exemple, si on dit bah, c'est le jugement, c'est la conscience, voire c'est le progrès. Alors, bon, on a vu que Guy Basset nous dit que finalement, le progrès en tant que... manifestation du rationalisme, ça Camus il y croit pas trop. Donc c'est pas on va tous vivre dans un monde maîtrisé, je crois pas que ça ce soit Camus. D'ailleurs il y a une allusion à la bombache
dans la
chute, il y a une allusion au nazisme. Peut-être tu voulais redire ce qui avait attiré ton attention, Sylvain.
Mais bon, c'est vrai que c'est lié à cette description du nazisme. Alors bon, c'est à prendre avec certains reculs. Mais voilà, à un moment donné, donc, Clamence nous dit « Quand on n'a pas de caractère, il faut bien se donner une méthode. » Et donc, alors, c'est assez rigolo parce qu'on peut...
Et il parle de la liquidation méthodique des
là,
juifs à Amsterdam.
Il parlait, de, bien sûr, des actes nazis pendant la guerre. Mais en fait, en même temps, ça donne une résonance parce qu'on, c'est vrai que nous, on a pas mal parlé de la méthode de Descartes et on peut se demander s'il n'y a pas aussi là un peu une petite critique de la rationalité en fait de Camus.
Je crois qu'on peut l'entendre comme ça. Enfin, ça reste une œuvre où chacun peut entendre ce qu'il voit. Mais quand on n'a pas de caractère, il faut se donner une méthode. Moi, je pense que ça. Et d'ailleurs, je crois que Descartes lui-même serait pas très en opposition avec ça, puisque quand il dit le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, ça signifie rien d'autre que moi, j'ai pas de choses supérieures au commun des mortels, de capacité intellectuelle supérieure au commun des mortels, mais je me suis donné une façon de cheminer. On en avait parlé longuement. Oui.
De toute façon, la technique est là pour faciliter la vie de l'homme, mais elle ne change rien à sa condition, fondamentalement. Elle ne peut pas être une réponse à ces angoisses métaphysiques.
Je ne sais pas. Précisément, je reviens à la question. À partir du moment où l'homme se retrouve sans Dieu, qu'est-ce qui peut lui servir de guide, d'orientation ? Et est-ce que Jean-Baptiste Clamence, c'est pas celui qui est pris de ce vide qu'on appelle nihilisme, qu'on appelle l'absurde chez Camus, et ainsi de suite ?
Chez Camus ou chez d'autres, l'absurde, c'est quelque chose qui dans lequel on se débat avec tout le théâtre de l'absurde, avec un certain nombre d'œuvres contemporaines.
Ce qui est sûr, c'est que la position, cette position où on se retrouve sans Dieu est beaucoup moins confortable d'une certaine manière que quand on a un Dieu, puisque le Dieu quelque part c'est un petit peu le Père quoi, qui veille sur nous et qui nous quelque part qui nous permet de rester dans un confort sans avoir à réfléchir soi-même directement à tout ce qu'on doit faire, parce qu'on a un peu des obligations d'une certaine façon. Alors que
là, je voudrais
sans
résister.
Dieu, d'une certaine manière, on est un peu obligé de se prendre en main et de diriger sa vie, de la construire.
Non, je voudrais résister à ce que tu dis, parce que toi, tu sembles dire que s'il y a un Dieu, c'est une position confortable, parce que tout va bien se passer, etc.
Il nous donne un guide de vie, quoi.
Oui,
donc
mais ce guide, on sait jamais.
On a déjà les règles.
C'est-à-dire, quelqu'un comme Pascal, justement, qui est dans le jansénisme, il dit on ne sait jamais, puisque c'est un Dieu tout-puissant, donc on ne sait jamais quelle va être la chose. Donc, c'est pas une position confortable, a priori.
Et ce qui est important, c'est que ça donne un cadre. C'est-à-dire que ce que dit Clamence tout à la fin, c'est qu'on peut supporter un jugement quand ce jugement est rendu en vertu d'un cadre auquel on croit. Mais le pire, c'est d'être jugé en dehors de tout cadre. Or, le fait de retirer Dieu, ça ne supprime pas le jugement. Et au contraire, ce jugement devient anarchique.
Ça, c'est intéressant. Et comment il apparaît, ce jugement anarchique, dans le roman ?
Mais c'est exactement justement ce que dit Pascal avec la coutume.
Ouais.
C'est-à-dire que la coutume, c'est une référence commune, et donc qui existe dans n'importe quelle société, quelle qu'elle soit, y compris la nôtre. C'est quelque chose justement qui donne ce cadre, qui n'est pas juste en soi, qui n'est pas la vérité, qui n'est pas rationnel, mais qui permet aux gens de vivre sans être perpétuellement en conflit. Parce que si on remet en cause la coutume, en disant « mais elle ne repose sur rien, elle n'est pas rationnelle, elle n'est pas juste », du coup, tout le monde s'autorise à remettre en cause le cadre dans lequel il vit, et on arrive à la guerre des communiqués. Arrive à la guerre
à la dislocation
de tous contre tous.
Voilà. La communauté.
Millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, 80 millions d'Indonésiens, et moi, avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 300 ou 400 millions de noirs, et moi. Qui baise au brunissoir, au sauna pour perdre du poids, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 300 millions de soviétiques, et moi. des manies sémétiques. Dans mon petit lit, en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de gens imparfaits. Emma, Emma, Emma. Qui regarde Catherine Langer.
Voilà, alors c'est Jacques Dutronc qui nous présente un autre Jean-Baptiste Clamence, qui est aussi très bavard, qui cesse de dire « et moi, et moi, et moi ».
Mais c'est tout Jean-Baptiste Clamence. Ouais. Effectivement, il va se dénoncer perpétuellement tout au long du roman, tout au long de son long monologue, comme étant quelqu'un qui ne pense qu'à lui, et qui est incapable de compassion envers qui que ce soit, et qui est là justement pour échapper au jugement. On est, c'est le thème, encore une fois, le thème central du roman, c'est la justification. Qu'est-ce qui fait que j'ai le droit d'être heureux? Qu'est-ce qui fait que j'ai le droit de dominer les autres ou de me mettre en position de dominer? Et donc la justification au départ, donc ça rejoint ta question de l'homme sans Dieu. La justification au départ, c'est un terme de théologie chrétienne. C'est-à-dire que l'homme est pécheur, il a besoin qu'il soit justifié. Pour pouvoir rejoindre être réuni à Dieu. Et cette justification, dans la théologie chrétienne, c'est quelque chose qui est donné par Dieu.
Alors, j'ai l'impression, Nicolas, qu'on peut en discuter très longtemps. Ah oui, mais comment on doit clore l'émission ?
Juste pour terminer, oui. C'est que là, justement, quand on est sans Dieu, il faut se justifier soi-même.
Voilà.
Pour un chrétien, est le pire de tout, puisque se justifier sans Dieu, c'est s'éloigner encore davantage de Dieu. Le péché, c'est être loin de Dieu, c'est être coupé de Dieu, et se justifier sans Dieu, c'est s'en couper encore davantage.
Mais j'ai l'impression que Camus, justement, dialogue la position nietzschéenne, qui est de dire, il s'agit justement de refuser la possibilité d'un arrière-monde.
Absolument.
Et de dire, à un moment, il fait parler Clamence, et il dit, mon accord avec la vie était total, j'adhérais à ce qu'elle l'était, du haut en bas, sans rien refuser de ses ironies, de sa grandeur, de ses servitudes. J'étais fait pour avoir un corps un peu plus loin. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a ce mouvement nietzschéen de dire il faut adhérer à la vie telle qu'elle est et la prendre. Et c'est ça, en fait, ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance. C'est une adhésion pleine et consciente à la vie, avec tout ce qu'elle peut avoir de contradictions, de luttes, et ainsi de suite.
Mais quelque part, cette situation qui est décrite au chapitre 2... c'est justement la situation d'avant la chute, et où il n'avait pas encore conscience qu'il doit se justifier.
Et voilà. Donc je propose aux auditeurs de continuer à lire ou à relire La Chute de Camus, et on voit qu'on a abordé des thèmes profonds qu'on va essayer de déblayer lors des prochaines émissions. Merci à toutes et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode des Neveux de René. Merci à Dominique Herpelding pour la technique.